Jean Delumeau, vous venez de poser dans un ouvrage récent une question que, je pense, tout homme en réalité se pose actuellement. Le christianisme va-t-il mourir? Et cette question, vous vous la posez, je pense, évidemment, comme un homme engagé, mais aussi comme un historien. Oublions l'historien, si vous voulez, pendant quelques minutes, et j'aimerais demander à l'homme, Jean Delumeau, qu'est-ce qui vous a conduit à écrire un ouvrage où, finalement, se perçoit continuellement votre engagement de chrétien, surtout dans la toute dernière partie, d'ailleurs.
Eh bien, je l'ai écrit à la fois comme historien et comme croyant. Comme historien, ayant pendant longtemps fait dans l'université des cours sur la réforme protestante, sur la réforme catholique, sur Rome au XVIe siècle. Et dans ces conditions, si les cours portent, inévitablement, les étudiants vous posent des questions, soit pendant la leçon, soit après. Et ces questions débordent toujours le passé et vous conduisent vers le présent. Et on ne peut pas toujours se dérober. Ces gens vous ont des interrogations, ils attendent quelque chose de vous, et c'est à ce quelque chose que j'ai voulu répondre. D'autre part, quand j'ai été candidat au Collège de France, j'ai fait ce qu'on appelle des visites, entre guillemets, qui ne sont pas du tout académiques. C'est-à-dire que l'on présente à ceux qui vont vous élire un projet d'enseignement et un projet de recherche. Et mon projet, c'était une étude des mentalités religieuses dans l'Europe des 15e, 18e siècles. Or, j'ai remarqué que quand je présentais et quand je défendais mon projet devant mes futurs collègues dans ces conversations privées, presque toujours, ils me déportaient vers le présent. Et l'un d'entre eux m'a dit, par exemple, « J'espère que vous ne vous limiterez pas à la période dite moderne, 16e, 18e siècle. » Et j'ai pensé que c'était une sorte de devoir pour moi de ne pas décevoir les gens qui me posaient ces questions. Voilà donc une des motivations de mon livre. L'autre, c'est que je constatais, comme vous le constatez, que beaucoup de nos compatriotes, de nos concitoyens, de nos contemporains s'interrogent sur le devenir de la religion. Et il m'a semblé que, historien, j'étais peut-être moins mal armé que d'autres pour répondre à leur inquiétude. Voilà donc les deux chemins convergents qui m'ont amené à écrire ce livre.
Mais il y a une réponse que vous apportez, enfin je la présente avec toute la brutalité de l'intervieweur, il y a une réponse que vous apportez qui risque d'en surprendre plusieurs. Vous dites enfin, en un mot, n'est-ce pas, ce qui se passe n'est pas tellement une déchristianisation que la constatation qu'une christianisation n'a pas eu lieu.
Était incomplète. Oui, je crois que c'est là justement que l'historien intervient. Je ne nie pas du tout la déchristianisation. Elle existe. Mais je pense qu'elle est de dimension plus restreinte que ce que l'on croit d'habitude. Autrement dit, en tant qu'historien toujours, je crois que je peux la dédramatiser en montrant preuves à l'appui, et il me semble que des nouvelles preuves viendront encore à mesure que la recherche progressera, eh bien, je crois pouvoir montrer que la christianisation d'autrefois n'a jamais été complète et elle ne pouvait pas l'être.
Alors, si vous voulez, avant de parler de cette déchristianisation, nous allons faire un peu comme vous le faites d'ailleurs dans votre ouvrage, parler de cette déchristianisation actuelle, n'est-ce pas, oui. Qui se manifeste de différentes façons, par une crise extrêmement profonde, comme vous le dites, des églises qui se vident, la fréquentation des sacrements qui diminue, la baisse des vocations religieuses, n'est-ce pas, oui. Vous-même, comme chrétien, comment réagissez-vous justement
à ce problème-là ? Eh bien, je ne cache pas mon inquiétude. Je ne cache pas mon inquiétude. Et ces chiffres que j'ai donnés au début de mon livre, sont justement la preuve que je m'interroge moi-même sur la signification de ces courbes dégringolantes. Alors, j'ai essayé de voir si ces courbes tendaient vers zéro, ou bien s'il y avait une autre interprétation possible, n'est-ce pas, de ces courbes descendantes. Et je crois qu'il existe deux lectures différentes de l'histoire chrétienne. C'est le chapitre central de mon livre, c'est le pivot autour duquel ma réflexion a tourné. Et la lecture quantitative est effectivement décevante et même décourageante. Il est vrai que les vocations diminuent, que la pratique religieuse s'essouffle en beaucoup de pays, pas dans tous, mais dans la plupart des pays. Mais d'autre part, si l'on pense qu'autrefois, quand il y avait unanimité ou quasi-unanimité de la pratique, jouait d'abord l'autorité de l'État, Ensuite, un conformisme religieux non seulement venant des autorités politiques, mais aussi de la pression sociale. Celui qui n'allait pas à la messe ou qui n'allait pas au culte protestant était montré du doigt. De sorte qu'il était très difficile, il fallait beaucoup de courage, autrefois sous l'Ancien Régime, pour ne pas aller à l'office.
Et il n'y a pas si longtemps dans un pays comme le Canada, par exemple.
Mais bien sûr, ou encore dans des provinces telles que la Bretagne ou le Massif Central en France. Mais maintenant, cela est tombé. Les gens sont totalement libres d'aller ou de ne pas aller au culte.
Alors, on ne doit pas être heureux, finalement, de cette déchristianisation.
Mais je pense que c'est une libération qui met les choses au net. Et ceux qui vont à l'office maintenant, ceux qui sont demandeurs vis-à-vis des églises chrétiennes, savent vraiment ce qu'ils veulent,
oui, mais
ils sont motivés.
Mais c'est peut-être eux qui se plaignent justement le plus de la déchristianisation, alors que, disons, les laïcs, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui ont pris des distances par rapport à l'église, eux disent, bah, tant mieux, enfin, on est libérés.
Je ne sais pas. Alors, il est vrai, comme vous le dites, que les chrétiens les plus sincères, les plus profondément motivés, sont sans doute aussi ceux qui s'inquiètent le plus de ces courbes descendantes dont je parlais tout à l'heure. Mais je suis très frappé de voir que des gens qui ont quitté la pratique religieuse, qui se demandent d'ailleurs pour eux-mêmes s'ils sont ou non encore croyants, cependant souhaitent une sorte de renaissance du sacré et une résurrection du christianisme. J'ai eu l'occasion de lire toute une série d'interviews de personnes, ce n'est pas encore publié, de personnes qui ont quitté le christianisme ou même qui n'ont jamais été chrétiens. Or, la plupart se désolent d'une sorte d'absence du christianisme dans notre société contemporaine. Donc, ils ne se réjouissent pas du tout.
Et quand vous dites absence du christianisme dans la société contemporaine, est-ce que vous envisagez à ce moment-là le christianisme comme ferment de civilisation ou comme fait religieux ?
Les deux à la fois, car comme ferment de civilisation, incontestablement, il est en baisse. Quant à la ferveur religieuse, je crois qu'elle est toujours très importante, mais chez un nombre de gens, encore une fois, qui constituent une minorité. Mais cette ferveur, à mon sens, elle n'a pas diminué. Et c'est là que j'introduis cette lecture qualitative de l'histoire chrétienne qui me paraît, pour un croyant, beaucoup plus réconfortante que la lecture quantitative, car la ferveur, elle existe encore.
Et dernière question, si on peut dire préliminaire, n'est-ce pas ? Vous avez bien intitulé votre volume « Le christianisme va-t-il mourir ?» et non pas « Le catholicisme va-t-il mourir ?»
Oui.
Donc le mal, il est également envahissant aussi bien dans l'Église catholique que dans les églises de la Réforme.
Absolument. D'une part, il s'agit d'une crise, et je n'hésite pas à employer le mot « crise », bien que finalement mon diagnostic soit optimiste. Mais cette crise, elle prend de fouet toutes les églises chrétiennes, et je dirais même peut-être toutes les religions mondiales, à partir du moment où elles sont confrontées à la civilisation technique, scientifique et matérialiste actuelle. Donc, crise, il y a. Mais je ne crois pas pour autant que cette crise nous conduise vers zéro, vers le zéro du christianisme. Je ne le crois pas. Est-elle une crise de croissance? Je ne sais pas. Je dirais plutôt qu'elle est une traversée du désert et que les églises sortiront purifiées. Mais, et je reprends votre question, pour qu'elles sortent purifiées et qu'elles sortent vivantes, il faut qu'elles sortent unies. Et c'est pourquoi je n'ai pas intitulé mon livre « Le catholicisme va-t-il mourir ?» mais « Le christianisme ». Car je souhaite, j'ai insisté longuement là-dessus, je souhaite une réussite au moins partielle de l'œcuménisme dans un avenir rapproché. Sinon, les choses iront très mal.
Alors, donc, revenons à votre analyse historique, n'est-ce pas ? Pour vous, si j'ai bien compris, il y a une certaine christianisation qui ne s'est pas faite, n'est-ce pas ?
Oui.
Et cette, je ne sais pas si je schématise, mais il me semble que pour vous, cette christianisation qui ne s'est pas faite, s'est faite parce que finalement, l'Église s'est affirmée comme un pouvoir et comme un pouvoir politique, n'est-ce pas ?
Oui.
Et un pouvoir finalement terrorisant. Est-ce que c'est exact ?
Ah oui, ça, absolument. Je veux dire que actuellement, les sciences humaines dans le monde entier, mais notamment en France, braquent en quelque sorte le projecteur sur l'analyse du pouvoir. Et donc, les églises catholiques protestantes ne pouvaient pas échapper à cette analyse implacable, quelquefois malveillante. Mais un historien chrétien, maintenant, ne peut pas non plus, lui, faire l'économie de cette analyse de l'Église comme pouvoir. Et la chose, si vous voulez, qui symbolise le mieux ce pouvoir de l'Église de jadis, c'est l'Inquisition. Mais c'est un fait que l'Inquisition a existé, et on ne peut pas l'enlever de la mémoire des hommes. Ce que les chrétiens peuvent faire, c'est de dire bien franchement qu'elle était en contradiction totale avec l'Évangile. Donc l'Église, les Églises, ont été pouvoir. Pouvoir politique, pouvoir économique, et en outre, pouvoir de contrainte des consciences. On ne pouvait pas penser ce que l'on voulait. Et je prends un exemple très précis. Il s'agit des statuts synodaux du diocèse d'Évreux, sauf erreur, en France, vers 1575-76. Comme on constate que les gens, quand ils assistent à la messe, y assistent mal, sans écouter, on décide que désormais, dans tout le diocèse et dans chaque église, pour la messe du dimanche, il y aura 3 personnes affectées à la surveillance des fidèles. Une dans le cœur, une au milieu de l'église et une au bas de l'église, de façon, dit le texte, à pouvoir surveiller tout le monde et à pouvoir rappeler à l'ordre ceux qui ne se tiendraient pas bien, ceux qui ne se mettraient pas à genoux au moment voulu, etc., etc. Voilà ce qu'était l'Église pouvoir d'autrefois.
Et ce pouvoir a voulu s'infiltrer même jusqu'en dans les consciences.
Mais absolument, notamment par la confession. Il est certain que... Alors, à cet égard, pour la confession, je tiens à faire une distinction essentielle. Je ne mets absolument pas en cause la confession auriculaire, la confession auriculaire comme démarche personnelle et libre de quelqu'un qui va trouver un confesseur parce qu'il a un problème religieux. En définitive, la psychanalyse, enfin l'analyse que pratiquent les psychanalystes ne fait que reprendre la démarche de la confession. En revanche, je mets en cause effectivement la confession auriculaire obligatoire qui me paraît avoir été toujours très mal supportée par les populations chrétiennes d'autrefois. Et là, il y avait contrainte des consciences.
Surtout, par exemple, lorsqu'on oblige des gens, n'est-ce pas, à aller à la confesse pour faire la communion pascale.
Exactement.
Pour être considérés comme
Exactement.
De bons citoyens.
Exactement. Et puis, alors, en outre, quand on refusait, c'est arrivé en France, quand on refusait l'absolution à des parents qui envoyaient leurs enfants à l'école publique. Dans le livre de Pierre-Jacques Essélias, Le cheval d'orgueil, qui se passe en Bretagne au début de ce siècle, la chose est mise noir sur blanc, n'est-ce pas ? Là, il y avait pouvoir et contrainte des consciences. C'est ça qui a disparu, et je dirais tant mieux.
Et il y a ce pouvoir économique aussi qui a été absolument terrible, n'est-ce pas ? Surtout dans la Rome du XVIe siècle.
Alors,
que vous avez analysé.
Dans mon livre Rome au XVIe siècle, qui est ma thèse de doctorat, plus exactement un résumé de ma thèse de doctorat, j'ai été amené à m'occuper de la richesse de l'Église, des finances de la papauté. Alors, je dois faire une distinction à cet égard. La papauté du XVIe siècle n'est pas une papauté riche. Pas du tout. Les finances de la papauté sont placent celle-ci très au-dessous, par exemple, du roi de France.
Ah bon.
Très au-dessous du roi de France. N'est-ce pas ? La papauté n'est pas riche.
Mais comment peut-elle faire des dépenses
aussi Alors, sanctuaires ? Voilà, en empruntant. En empruntant, et puis les dépenses ont été limitées. Elles ont été limitées à Rome. Autrement dit, on a fait une ville magnifique, la plus belle ville d'Europe du XVIe et du début du XVIIe siècle, incontestablement. On a fait cette ville en empruntant de l'argent aux banquiers génois, essentiellement, et florentins, enfin aux grands banquiers italiens, qu'on a remboursé essentiellement en accroissant les impôts de l'État pontifical. Et d'autre part, on a drainé tout l'argent vers Rome. De sorte que Rome s'est embellie, mais l'État pontifical dans son ensemble s'est appauvri. Et j'ai calculé dans ce livre que les revenus de la papauté, mettons vers 1600, provenaient pour un quart des églises catholiques non italiennes, et pour trois quarts des ressources de l'État pontifical.
Alors ce sont ces pauvres citoyens de l'État pontifical
qui ont payé, ils ont payé plus cher leur pain, leur vin, leur sel pour embellir Rome.
Alors, d'une certaine façon, pour la chrétienté tout entière, Rome n'est pas si scandaleuse que ça. Elle est scandaleuse pour les citoyens de...
Ah oui, il est certain que les catholiques du monde entier ont assez peu contribué à l'embellissement de Rome. Ça, c'est certain. L'argent, je vous dis, est venu par ce canal. D'abord, les emprunts, ce qui a permis de disposer de liquidités rapidement, car la reconstruction de la Rome, de la Renaissance et de la Rome baroque s'est faite finalement très vite, n'est-ce pas ? Et puis alors ensuite, cet argent, on l'a remboursé aux banques par un supplément d'impôts.
Mais ce n'était pas ça que Luther, quand même...
Non, alors Luther, quand il a protesté contre les indulgences, a cru, comme la plupart des Allemands de son temps, a cru qu'une grande quantité d'argent sortait d'Allemagne par le trafic des indulgences pour aller enrichir Rome. Et c'était les Fugger, les fameux banquiers Fugger, qui étaient les intermédiaires par lesquels passait cet argent qui allait d'Allemagne à Rome. Incontestablement, une certaine somme d'argent suivait ce chemin. Mais je pense qu'elle n'était pas très importante. Il y a eu un moment dans l'histoire de la papauté et de l'histoire chrétienne où l'ensemble de l'Europe a beaucoup fourni à la papauté, mais c'était au XIVe siècle. Les choses avaient déjà bien changé après le grand schisme et la crise conciliaire de la fin du XIVe et du début du XVe siècle. Donc quand moi j'aborde en quelque sorte l'histoire de Rome et l'histoire de la papauté au XVIe siècle, cette richesse internationale de Rome avait beaucoup diminué. Elle n'avait pas disparu, mais elle était réduite à peu près à un quart.
Mais donc pouvoir politique, quand même un certain pouvoir économique, en tout cas une certaine implication dans les questions financières.
Oui, mais alors justement, mais je dirais, pour parler de pouvoir économique, alors il n'y avait pas seulement la richesse de Rome et de la papauté, il y avait la richesse de l'Église dans chaque pays. Or, en France, par exemple, l'Église possédait, disons en gros, le dixième du sol français, voyez-vous. Et de même, en Lombardie, en Toscane, dans le royaume de Naples, l'Église possédait des terres en nombre considérable. Même chose en Espagne et au Portugal. Donc, il y avait deux choses que je tiens à distinguer, je le répète, n'est-ce pas ? La richesse de la papauté en tant que telle, et puis la richesse de l'Église installée dans chaque pays.
Et le lien entre l'Église et les pouvoirs économiques, finalement, et protégeants, finalement.
Mais aussi, forcément, l'Église était un grand propriétaire foncier.
Donc, il protégeait ses intérêts.
Bien sûr. Et d'autre part, l'Église était aussi grand propriétaire, enfin, l'Église au sens général, n'est-ce pas ? Dans chaque pays, dans chaque ville, l'Église possédait également de nombreuses maisons. Par conséquent, l'Église était très riche, quand même, c'est sûr.
Et c'est tout ça, évidemment, qui a fait scandale de plus
oui,
en plus, et qui fait encore scandale aujourd'hui.
Mais absolument. Et d'ailleurs, on a fait une étude récente sur le village breton de Plozévette, qui est justement celui de Pierre-Jacques Esselias. Et une étude remontante de nos jours jusqu'au XVIIIe siècle, faite par une équipe du CNRS, arrive à prouver que l'anticléricalisme chez les habitants de Plozévette avait son origine sous l'Ancien Régime, dans la dîme. Et cela, on pourrait le vérifier ailleurs.
Alors, il y a donc tout cet aspect, mais il y a aussi une autre chose que vous dénoncez, c'est finalement ce comportement anti-évangélique mené par des chrétiens au nom souvent de l'Évangile. Je pense par exemple au trafic des esclaves.
Alors, ce n'est pas l'Église qui a réalisé le trafic des esclaves.
Oui.
L'Église simplement est restée silencieuse. Il s'agit donc d'un péché par omission. Et d'un péché par omission qui a duré plus de deux siècles. Car on calcule que de 1500 à 1850 environ, entre 15 et 20 millions d'esclaves ont été transportés d'Afrique en Amérique par les négriers européens, qui étaient tous chrétiens, catholiques ou protestants. Or, les premières grandes protestations, elles sont au XVIIIe siècle, celles de Montesquieu. Donc elles ne sont pas venues de l'Église. Et au XVIe et XVIIe siècle, c'est le silence de la papauté et de la hiérarchie ecclésiastique, en gros, c'est le silence sur la traite des Noirs. Donc, à un moment où l'Église était effectivement au pouvoir, elle pouvait agir. Si actuellement l'Église n'a pas la possibilité d'empêcher des camps de concentration en Russie, mais si la papauté avait eu le courage de dire « les chrétiens n'ont pas à faire la traite des Noirs », eh bien, ça aurait quand même été, une prise de position dont les gouvernements de l'époque, dont les marchands de l'époque auraient dû tenir compte.
Mais vous allez encore plus loin. Vous dites, n'est-ce pas, en fait, que l'Église, n'est-ce pas, qui a baptisé beaucoup, qui a construit des églises partout, n'a finalement pas tellement atteint les mentalités, n'est-ce pas, que les gens ont été finalement que...
Cela dépend des moments et des lieux. En effet, une des thèses que je défends, si vous voulez, c'est que la christianisation de l'Europe, à la fin du Moyen-Âge, était encore très incomplète. Et que les deux réformes protestantes et catholiques, je les situe dans l'ordre chronologique, qui certes ont été hostiles l'une à l'autre, allergiques l'une à l'autre, ces deux réformes ont quand même accompli le même travail et ont été une prise de conscience d'une christianisation insuffisante. Alors, elles ont voulu mettre les bouchées doubles. Et elles ont procédé à une christianisation, comme on dit de nos jours, à une acculturation religieuse intensive et qui a eu, à mon avis, en quantité et en qualité des résultats importants. Même si les méthodes ont été contestables, ce que j'ai souligné, néanmoins nous ne pouvons pas nier, nous autres chrétiens de la fin du XXe siècle, que nous sommes redevables, tributaires des grands efforts christianisateurs des XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles et aussi XIXe siècle, qui continuait d'ailleurs dans la même ligne de conduite.
Mais est-ce que je me trompe lorsque je crois avoir lu que vous dites qu'en fait, si j'exagère, mais en fait que les gens de ces époques, XVIe, XVIIe siècle, étaient restés des paysans religieux, mais en réalité fort peu chrétiens.
Alors ça, je le crois. Je le crois, mais je dois aux téléspectateurs de dire qu'il s'agit là d'un débat historiographique qui reste ouvert. Donc, j'expose une thèse, mais il y a des historiens de très bonne qualité qui ne partagent pas mon point de vue. Autrement dit, qui croient que l'Europe, mettons à la fin du XVe siècle, était plus chrétienne que je le dis moi. Donc, là, il y a un débat, je peux même ajouter qu'un colloque doit se tenir à Varsovie l'année prochaine pour débattre de ce problème. C'est donc un sujet qui est vraiment en cours d'étude. Mais mon optique personnelle, mes recherches personnelles, me conduisent à penser que l'Europe était relativement faiblement christianisée, j'entends en tant que masse paysanne, à la fin du XVe siècle, à la fin du Moyen-Âge, et que des pratiques chrétiennes camouflaient encore des séquelles très importantes de polythéisme, de paganisme, mais un paganisme qui n'était plus conscient de lui-même, n'est-ce pas ? Ça n'était plus, il n'y avait plus de panthéon ancien, non, n'est-ce pas ? Il n'y avait plus de rites religieux du paganisme en tant que tel, mais des pratiques païennes, à mon avis, se continuaient sous un manteau, sous un camouflage chrétien. Et c'est de cela que les réformateurs protestants et catholiques ont pris conscience, et alors ils sont partis en guerre contre ce qu'ils ont appelé le paganisme.
Oui. Alors, ils partent en guerre contre le paganisme, mais est-ce que justement cet effort d'acculturation de la réforme, n'est-ce pas, n'a pas eu aussi, je dirais, presque un envers, à savoir, n'est-ce pas, que finalement, le christianisme aurait été plus ou moins, j'ose pas dire paganisé, mais aurait perdu sa spécificité de religion chrétienne pour devenir finalement une religion parmi d'autres.
Non, plutôt le reproche que l'on fait rétrospectivement à cet effort acculturateur, c'est peut-être d'avoir un peu trop désincarné la religion, et par conséquent d'avoir coupé la religion de racines populaires. Autrement dit, que à l'époque, une religion ne pouvait être que syncrétique et mélanger de façon inextricable des éléments païens et des éléments chrétiens. Voyez-vous, voilà donc comment on peut concevoir les choses. Incontestablement, il y a eu un effort pour briser une culture populaire qui était restée païenne. Est-ce qu'il fallait briser cette culture? Ce n'est pas sûr.
Mais toutes ces fêtes comme Noël, enfin, ce sont des fêtes païennes en réalité. Je pense que Duby a écrit un article là-dessus.
Oui, ce sont des fêtes. Enfin, il est certain qu'il y avait des fêtes païennes qui correspondaient aux environs du solstice d'hiver et du solstice d'été. Toutefois, le plus grand folkloriste français, Van Gennep, qui est mort il y a quelques années, pensait, lui, que même les gens d'autrefois savaient faire la différence entre la date du solstice, le 21, et puis la date du 25, ou du 24 pour la fête de la Saint-Jean, et qu'il s'agit de deux choses différentes. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que même s'il s'agissait de fêtes d'origine chrétienne, Noël, la fête de la Saint-Jean, elles ont été progressivement folklorisées, ajoutons, paganisé par les mentalités rurales.
Nous sommes donc en face d'un certain échec du christianisme, si on peut dire. Qui est responsable de cet échec?
Eh bien, l'échec du christianisme, à mon avis, s'explique peut-être parce que les ambitions ont été démesurées. L'évangile se présente comme une proposition, n'est-ce pas? Et quand Jésus dit au jeune homme riche, si tu veux me suivre, vends tes biens et viens avec moi, il ne lui dit pas, tu vas vendre tes biens et tu vas me suivre. Il le laisse libre. Et le jeune homme riche, dit l'évangile, est reparti tout triste. Mais il n'a pas vendu ses biens. Donc l'évangile se présente comme une proposition que l'on peut accepter ou refuser. Or, dans le système de l'Église-pouvoir, les autorités religieuses et politiques ont voulu imposer cette religion. Et c'est là qu'ils ont eu, en quelque sorte, les yeux plus gros que le ventre, si je peux prendre l'expression classique, car il était impossible de digérer toute cette masse. Et donc ils allaient, les hommes d'église avec cette ambition démesurée, allaient au-devant d'un échec. Il arriverait un jour où les gens finiraient par regimber à une autorité qui était par ailleurs très stricte, à une discipline qui était très exigeante. Ce temps est arrivé. Il a commencé au XVIIIe siècle et les choses ont été en s'exagérant par la suite. Donc, moi je vois une des causes de l'échec, n'est-ce pas, dans ce décalage entre les ambitions et les possibilités raisonnables. Il aurait mieux fallu, en quelque sorte, faire preuve de patience.
Est-ce qu'en fin de compte, ce n'est pas les curés, ce ne sont pas les prêtres qui sont responsables de l'échec de l'Église, finalement?
Vous dites ce ne sont pas les...
Est-ce que ce ne sont pas les prêtres qui sont responsables?
Bien sûr, bien sûr. Enfin, disons les hommes d'Église, parce que c'est vrai aussi pour le monde protestant. Mm-hmm. Dans le monde protestant, j'entends les pays où il y avait calvinisme, luthéranisme, anglicanisme, donc la religion était elle aussi obligatoire. Mm-hmm. C'était le même schéma qu'en pays catholique. Alors, dans tous ces pays, les hommes d'Église ont eu la volonté de faire passer tout le monde automatiquement dans le moule d'une religion obligatoire. Eh bien, ils allaient forcément au-devant de l'échec et leur responsabilité est entière, naturellement, ça c'est sûr.
On peut donc se demander une question, Monsieur Delumeau. Est-ce que l'Église a jamais été chrétienne, finalement?
Elle ne l'a jamais été totalement, et tant que les hommes seront des hommes, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps, l'Église ne sera pas complètement chrétienne. Parce que le christianisme, c'est un idéal, et on n'arrive jamais complètement sur terre à jouxter cet idéal. Donc, on ne peut pas demander l'impossible. Simplement, ce qu'il faut souhaiter, c'est que l'idéal soit plus nettement marqué de nos jours qu'il l'était autrefois. Ou autrefois, on l'avait vraiment un petit peu oublié dans ses lignes essentielles.
Mais cet idéal, il a quand même été vécu pour que... Enfin, aujourd'hui, il y a encore des chrétiens, il y a quand même une transmission.
Mais il a été vécu. Il a été vécu, mais il était vécu par les uns, démenti par les autres. Et il était démenti par des pratiques de richesse, des pratiques de pouvoir, qui malheureusement tenaient le devant de la scène et que nous ne pouvons pas tout de suite oublier parce qu'elles ont marqué l'histoire. Mais il est vrai que le christianisme était vécu par des gens situés du haut en bas de la hiérarchie chrétienne, du haut en bas du peuple des fidèles. Ça, je suis persuadé qu'il y a une histoire chrétienne, une très belle histoire chrétienne qui a existé et qu'on ne doit pas nier. Et justement, actuellement, c'est une tendance peut-être négative de l'historiographie actuelle que de trop insister sur l'Église pouvoir et par conséquent d'occulter à cause de cela tout ce qui a été sainteté, beauté, charité, dévouement dans l'Église et qui a existé, Dieu merci, et qui fait qu'elle n'est pas morte.
Eh bien justement, j'aimerais que vous nous disiez qu'est-ce qui a existé de sainteté, de beauté, de service dans cette Église.
Alors, je dirais d'abord une chose de façon préliminaire, c'est que c'est le propre de la sainteté de ne pas chercher systématiquement la publicité. Et par conséquent, il y a tout un tas d'actes de sainteté du passé et du présent qui ne seront jamais connus. Mais je crois justement qu'on peut rattacher tout de même les actes de la sainteté chrétienne autour de beauté, charité, dévouement. Beauté parce que c'est tout à l'honneur du christianisme, et bien qu'il ait été pouvoir, d'avoir suscité au long des âges toute une série d'œuvres absolument extraordinaires et extraordinairement variées en peinture, en sculpture, en architecture, en littérature et en musique. Ça, je crois que dans le passé de l'humanité, aucune religion, et j'ajouterai aucune philosophie, n'a suscité une telle floraison d'œuvres d'art littéraire, architectural, pictural, musical, etc.
Ça ne vous scandalise pas? Vous ne pensez pas là qu'il y a une espèce de déviation de...
Ah, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que ces œuvres ont tout de même exprimé une foi. Elles l'ont exprimée de façon diverse à travers les cultures, le temps et l'espace. Mais le plus souvent, bien sûr, il y avait des œuvres de commande qui étaient un peu artificielles. Mais mettons-les de côté, si vous voulez. Dans l'ensemble, tout de même, ces œuvres ont été marquées par une foi profonde.
Mais est-ce que certains de nos contemporains ne diraient pas à ce moment-là que la religion s'est mise au service d'une élite?
Et pas seulement. Parce que prenons le cas de l'art baroque. L'art baroque qu'en France, d'ailleurs, on ne connaît pas toujours très bien et qu'on n'apprécie pas toujours suffisamment. Mais l'art baroque, bien sûr, et je l'ai écrit dans mon livre « Rome au XVIe siècle », l'art baroque a été, à certains égards, un art de riche. C'est un art qui a été conçu par une aristocratie et qui a emprunté au palais de l'époque, le brillant, le doré, les marbres, etc. Mais d'autre part, l'art baroque se voulait et a été aussi un art populaire. Car, dans des églises de campagne, le marbre, ou le simili-marbre, les lumières, l'or, les stucs, etc., voulaient en quelque sorte créer une atmosphère paradisiaque. Le seul paradis qui était possible pour les pauvres, et qui était une sorte d'annonce du vrai paradis où ils entreraient un jour. Et dans ce cas, je crois pouvoir dire que l'art baroque a été à la fois aristocratique et populaire. Ce que n'a pas été l'art de la Renaissance, par exemple Saint-Pierre de Rome ne ressort pas à un art populaire, ce que n'a pas été non plus l'art maniériste de la fin du XVIe siècle, et ce que n'était pas l'art néoclassique du XVIIIe siècle.
Alors donc, service de l'humanité, et service aussi de la foi par l'art, par la beauté. Oui. Vous avez dit aussi service de la foi, service du message évangélique, par le service, par le dévouement.
Par le dévouement, alors là je crois qu'il faut dire que les annales du dévouement chrétien sont très riches. Sont très riches depuis le début jusqu'à nos jours. Bien sûr, on peut dire ici en quelques minutes que les noms les plus célèbres, n'est-ce pas, qu'il s'agisse de Saint Vincent de Paul, ou de San Camillo Lelis, par exemple, ce saint italien du XVIe siècle qui avait été soldat, qui a créé un ordre hospitalier et qui obligeait, à l'époque c'était pas tellement courant, qui obligeait ses frères, donc dans son ordre, à balayer les salles d'hôpital, à changer les lits régulièrement, etc., à laver les malades. Il y avait là une sorte de prévenance, oui, un sens de l'hygiène qui, pour l'époque, j'entends. Et alors il avait donné comme enseigne et comme insigne à son ordre le balai. C'est quand même assez révélateur. Et puis, ensuite, jusqu'à nos jours, pensons à Maria Teresa, par exemple, à Sœur Teresa à Calcutta, n'est-ce pas, qui se dévoue au service des malades et des mourants, en particulier dans les mouroirs de Calcutta. Là, il y a vraiment, vous savez, depuis le début jusqu'à la fin de l'histoire chrétienne, il y aura des dévouements innombrables. Ça, je crois que c'est une certitude. Je suis sûr, quant à moi, que le dévouement chrétien n'a pas diminué.
Mais encore là, il y a une objection que nos contemporains vont faire. On se met au service des pauvres, mais on n'est pas préoccupé de rétablir la justice, c'est-à-dire finalement, n'est-ce pas, d'entrer dans un combat.
Bien sûr. Alors, autrefois, c'était vrai. Mais maintenant, ce n'est plus vrai. Et je crois que l'on peut dire que de nos jours, les chrétiens sont à l'avant-garde du combat mondial pour la justice. Là encore, prenons, si vous voulez, le cas de Elder Camara. Elder Camara représente justement une de ces pointes avancées, n'est-ce pas, de l'élite qui combat dans le monde pour plus de justice et pour que les pauvres soient moins déshérités. Et qui trouve-t-on maintenant un peu partout dans le monde, dans le tiers-monde surtout, qui trouve-t-on dans les œuvres, dans les entreprises qui essaient d'améliorer la situation des pauvres, souvent, pas toujours peut-être, mais souvent, très souvent, des chrétiens. Donc, ils ont compris maintenant, aussi bien en Europe, en Amérique du Nord qu'en Asie, et surtout en Amérique du Sud, ils ont compris que l'Évangile est inséparable de la volonté d'améliorer le sort des déshérités, et j'allais dire pour une raison très simple. Enfin, entre autres, d'abord parce que c'est un besoin et une volonté de justice élémentaire. Ça vient avant tout, c'est une question de bon sens. Mais aussi, parce qu'on comprend mieux de nos jours que l'Évangile et le message de la bonne nouvelle ne sont vraiment accessibles qu'à des gens qui peuvent arriver à une certaine liberté d'esprit. À une certaine liberté d'esprit qui n'est pas compatible avec la peur continuelle de mourir de faim. Quand on se demande toujours si on aura de quoi manger le lendemain, quand on est toujours menacé par la maladie, on n'a guère le temps de penser au salut. Donc il faut un minimum, l'expression n'est pas de moi, il faut un minimum de calories pour accéder à la religion en esprit.
Oui, c'est assez frappant. Mais est-ce que par exemple ce combat pour la justice n'est pas venu un peu trop tard, tout au moins pour un historien?
Il est venu trop tard. Enfin, disons plus exactement qu'il est venu très tard, mais il n'est pas venu trop tard. Il est venu très tard parce qu'il aurait fallu effectivement que le responsable du christianisme s'aperçoivent plutôt du lien nécessaire que nous apercevons maintenant entre christianisation d'une part et niveau économique, c'est vrai. Et qu'ils se rendent compte aussi qu'il y avait plus de pauvres que de riches sur terre et que les riches auraient dû partager davantage. Donc, vous avez raison, hein, l'Église et les chrétiens se sont mis tard en chemin. Mais je dirais que maintenant, l'Église et les chrétiens s'efforcent de rattraper le temps perdu. Et je crois que les choses désormais sont bien parties à cet égard.
Bon, il en reste pas moins, n'est-ce pas, que vous en appelez, vous souhaitez une réforme profonde, n'est-ce pas? Vous pensez que la première réforme, au fond, la réforme protestante, la réforme catholique, s'est un peu épuisée, qu'elle a perdu son énergie, n'est-ce pas? Et vous souhaitez une réforme nouvelle,
oui,
radicale.
Oui. Oui, alors justement, je crois que vous avez raison de dire que dans ces dernières années, disons dans les 50 dernières années, on s'est situé au moment où la réforme protestante et la réforme catholique s'essoufflaient. Et le nouveau souffle, sur des bases totalement différentes, d'ailleurs, l'évangile reste en commun, mais la nouvelle phase, le nouveau redémarrage, il se produit actuellement. Donc, si vous voulez, la nouvelle réforme. Mais cette réforme, je crois qu'elle ne réussira que si elle est écuménique. Parce que, dans une situation de minorité, qui est la situation actuelle, désormais, des chrétiens, il est déraisonnable de rester séparé.
Bon. Alors, vous venez de dire des choses évidemment extrêmement graves sur lesquelles il y a beaucoup de questions à vous poser. La première chose, c'est la situation de minorité, n'est-ce pas? Et quand on lit votre livre, Le christianisme passé de mourir, vous semblez prendre pour acquis que le christianisme sera désormais minoritaire.
Oui. À vue humaine, on ne voit pas comment les choses pourraient être autrement. Depuis déjà un certain nombre d'années, et ça se précise chaque jour davantage, les chrétiens ne forment plus qu'une minorité dans des sociétés neutres, indifférentes, parfois hostiles, comme c'est le cas dans les pays de l'Est. Donc, y aura-t-il un renversement de la vapeur? C'est possible, mais nous ne pouvons pas le prévoir. Je ferai d'ailleurs une parenthèse à cet égard. Si la vapeur devait se renverser, si le christianisme devait à nouveau avoir le vent en poupe, il ne faudrait pas qu'il redevienne pouvoir. Donc, il y aurait à nouveau le danger que j'ai signalé tout au long de mon livre. Mais quoi qu'il en soit, il me semble qu'il faut accepter sans amertume cette situation de minorité. Car finalement, qui dit minorité peut dire aussi qualité.
Qualité, à ce moment-là, est-ce que le christianisme ne deviendra pas le fait d'une élite?
Je ne le pense pas. Alors, tout en
parce que vous
qu'entend-on par élite,
oui.
Qu'entend-on par élite? Il est bien évident que s'il s'agit du dévouement, dont on parlait tout à l'heure, de la charité, de la sainteté, ça risque en effet d'être le fait d'une élite. Mais cela ne veut pas forcément dire une élite financière et économique. C'est tout différent. Il s'agit là d'une élite morale. Mais pourquoi est-ce que des gens ayant un rang modeste ne seraient pas aussi charitables, aussi saints, aussi dévoués que d'autres? Au contraire, même. Par conséquent, élite, oui, mais pas au sens socio-économique.
Et vous demandez un christianisme populaire?
Oui, parce que autrefois, dans les structures de l'Église pouvoir, catholique ou protestante, toutes les initiatives venaient d'en haut. Et j'allais dire que c'était un petit peu normal, ou disons inévitable, puisqu'il s'agissait d'encadrer la totalité des populations, lesquelles en général étaient beaucoup moins instruites que le corps pastoral, catholique ou protestant. Maintenant, nous avons quitté ce modèle de christianisme pour ce nouveau modèle de christianisme minoritaire qui est en train, je crois, de naître sous nos yeux. Alors, dans ce nouveau modèle, les gens sont beaucoup moins nombreux, mais beaucoup plus motivés. Et d'autre part, ils sont aussi instruits que leur corps pastoral. Dans ces conditions, l'initiative viendra de plus en plus d'en bas, de ces chrétientés de base qui se multiplient, de ces groupes informels, n'est-ce pas, que l'on voit un peu partout maintenant se multiplier dans l'Église. Et ces gens-là n'accepteront plus des ordres qui viendraient d'en haut sans qu'ils aient été consultés. C'est pourquoi je dis, christianisme minoritaire, c'est un fait actuel déjà, mais un christianisme qui devrait être populaire, c'est-à-dire que les chrétiens qui se sentent concernés devraient être aussi consultés sur les grandes décisions à prendre, éthiques et théologiques.
Qu'est-ce qu'il faudra attendre des prêtres à ce moment-là?
Il est certain qu'il faudra une nouvelle redéfinition du rôle du prêtre. Toutefois, moi, personnellement, j'aperçois le prêtre comme étant celui qui d'abord préside la réunion eucharistique. Donc, c'est lui qui continue à avoir le rôle essentiel dans la liturgie chrétienne. Et je ne vois pas comment un christianisme pourrait se passer de cette liturgie. Et ensuite, je dirais que toutes ces autres activités découleraient en quelque sorte de celle-là qui se trouverait au centre. Mais j'ajouterais que la diminution du nombre des vocations. Et la constitution de ce nouveau modèle de christianisme dont je parlais tout à l'heure amèneront, pour ma part j'en suis persuadé, une nouvelle redéfinition du rôle du prêtre et amèneront aussi à étudier la question de la délégation sacerdotale qui, vous le savez peut-être, est actuellement à l'étude dans l'Église réformée de France. Il me semble que là, il y a un passage obligatoire. Un passage obligatoire, et j'ajouterai, j'espère que je ne vais pas trop choquer les téléspectateurs canadiens, mais pour ma part, il faudra en venir à l'ordination des femmes. Car il y a eu des tabous. Il y a eu des tabous qu'il faut enfin faire sauter. Je ne dis pas que il faille tout d'un coup ordonner un tel nombre de femmes qu'il n'y aurait plus que des femmes prêtres. Ce n'est pas ça. D'ailleurs, je crois que les femmes elles-mêmes ne le souhaitent pas. Mais il me semble qu'il faut faire tomber un tabou théorique. Et aussi, il nous faut nous rendre compte que les femmes jouent un rôle de plus important dans l'Église, et en particulier comme catéchistes. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est au Québec, mais en France, ce sont les mamans, le plus souvent, qui font le catéchiste dans des groupes de paroisse. Elles ont donc une responsabilité énorme. Alors pourquoi ne pas être logique et ne pas leur donner la totalité des responsabilités? D'autant plus que dans les églises, c'est un fait, il y a plus de femmes que d'hommes.
Alors donc, christianisme populaire, christianisme minoritaire, christianisme aussi écuménique, n'est-ce pas? Mais nous sommes quand même très loin de ces rapports.
Nous en sommes très loin.
On a même l'impression que c'est en stagnation.
Absolument. Alors, c'est en stagnation au sommet. Est-ce que c'est en stagnation à la base? Ça, c'est moins sûr. Car, à la suite de la publication de mon livre, j'ai été amené à réaliser une sorte de petit tour de France à la demande de groupes qui m'ont demandé de venir pour parler de mon livre et discuter avec eux. Or, je peux dire que pratiquement toujours, les groupes ont été catholiques et protestants. Tantôt, je suis invité par un groupe catholique, tantôt par un groupe protestant. Et si c'est un groupe protestant, les catholiques du coin viennent avec leur clergé. Si c'est un groupe catholique, les protestants viennent avec leur pasteur. Donc, il me semble qu'à la base, vraiment, il y a une cohabitation de plus en plus fréquente, de plus en plus importante entre catholiques et protestants. Mais je sais bien qu'il y a encore des points théologiques qui accrochent, et j'ajouterai, à mon avis, les blocages sont moins théologiques que blocages d'appareil.
À ce moment-là, je suis obligé de vous demander, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire être chrétien?
Oui, c'est une très bonne question parce que je me la suis posée à moi-même, et je pense qu'il est indispensable de la poser pour le temps présent, mais il est également indispensable de la poser pour l'historiographie. Quand mes collègues et moi, nous faisons l'histoire du christianisme européen ou du christianisme mondial, nous devons nous poser la question. À partir de quand peut-on dire que des populations étaient chrétiennes, que des comportements étaient chrétiens? Alors, j'ai proposé une définition, valable pour le présent et pour le passé, mais en précisant que je la soumettais à la critique des lecteurs et des historiens et des sociologues qui travaillent sur ces problèmes. Donc, j'ai dit que, me semble-t-il, quelqu'un peut se définir chrétien quand, étant pécheur et conscient de l'être, néanmoins, il espère son salut, c'est-à-dire son salut dans l'au-delà, par la résurrection de Jésus. Donc le chrétien, à mon avis, est celui qui affirme la résurrection de Jésus et par lui le destin éternel de l'humanité, et par conséquent qui dit à ses contemporains, nous ne sommes pas des condamnés à mort à cause de la résurrection de Jésus. Voilà pour moi ce qui est le noyau de la foi.
Cette fois-là, pour la vivre actuellement dans le monde, il faut quand même assurer aussi sa transmission, n'est-ce pas? Bon, on pourrait se demander, justement, le christianisme va se mourir, ne sommes-nous pas la dernière génération de chrétiens? Finalement, ça c'est très concret, n'est-ce pas? Comment assurer cette transmission-là? C'est tout le problème aussi qui se pose.
Je pense que le problème du catéchisme dont je parlais tout à l'heure est extrêmement important. Vous arrêtez un petit peu, s'il vous plaît.
Mais on peut quand même se poser la question, n'est-ce pas, le christianisme va-t-il mourir? Mais de façon concrète, est-ce que nous ne sommes pas la dernière génération de chrétiens? Comment assurer la transmission, justement, de cette espérance?
Alors, j'espère bien que nous ne sommes pas la dernière génération chrétienne. Mais il est vrai que le problème de transmission est essentiel. Et j'ajouterais même qu'actuellement, la transmission est mal assurée. Elle est mal assurée parce que se pose un problème de catéchisme. Et je reviens un petit peu à ce problème que j'évoquais justement tout à l'heure. Et car nous avons eu autrefois les catéchismes qu'on apprenait par cœur, par demande et réponse, et qui sont devenus évidemment impossibles pour les gens de notre génération maintenant. Mais il y a un vide. Il y a un vide malgré des efforts catéchétiques intéressants. Cependant, beaucoup des parents catéchistes avec lesquels j'ai parlé ont l'impression de se trouver devant un vide doctrinal. Et ils ne savent plus quoi dire à leurs enfants. Et avec le désir d'être concret, on a de plus en plus écarté les enfants de la dimension transcendante du christianisme. Et donc, à mon sens, il faut absolument que l'Église institue une réflexion prioritaire sur le catéchisme. Et quant à moi, je voudrais à cet égard indiquer deux pistes. La première, c'est que il faut familiariser le plus rapidement possible les enfants chrétiens avec l'Évangile, c'est-à-dire avec la vie de Jésus. Cette vie est concrète, elle est relativement facile à retenir, et par conséquent, je dirais là qu'ils auraient ou ils auront l'enseignement de base. N'est-ce pas ? Et ce ne serait pas du par cœur, mais ce serait la vie de Jésus bien connue et qui serait ancrée solidement dans leur mémoire. Et la seconde piste que je suggère est celle qui serait marquée par ce que j'ai appelé dans mon livre le credo fondamental. Je crois en effet qu'il appartient aux instances chrétiennes qualifiées, et alors là je souhaiterais un vrai consul œcuménique pour le faire, donc il appartiendrait aux instances chrétiennes les plus qualifiées de dire en langage moderne l'essentiel de la foi pour le faire apprendre aux enfants et pour que aussi les adultes puissent l'exprimer. Or, actuellement, il me semble que les chrétiens ne savent plus très bien ce qu'ils doivent croire et donc ce qu'ils doivent dire sur la foi.
Et c'est ce qui explique, par exemple, les tensions actuelles dans l'Église.
Absolument. Mais comme on ne peut pas espérer, d'ailleurs est-ce souhaitable, comme on ne peut pas espérer un accord général sur des formules trop nombreuses, j'ai proposé que justement, autour de ce noyau doctrinal qu'est l'affirmation de la résurrection, eh bien, on propose en langue moderne, en langage moderne, le credo essentiel, la prière commune de la foi, pour que tous ceux des chrétiens, catholiques ou autres, qui voudraient la dire, n'est-ce pas, se sentent portés, en quelque sorte, par une prière collective, et que cette prière collective soit au centre du catéchisme. Mais cette prière collective pourrait être conçue de façon différente des credos d'autrefois. Par exemple, un religieux m'a dit, pourquoi ne pas y intégrer les béatitudes ? Bien sûr, pourquoi ne pas le faire ?
Pour vous d'ailleurs, la prière est importante. L'Église doit redevenir un lieu de prière.
Justement, j'ai voulu m'élever dans mon livre contre une certaine tendance à transformer le christianisme en une simple idéologie, si noble soit-elle, de contestation sociale. Et le combat, le nécessaire combat pour la justice, à mon sens, ne doit pas empêcher la prière. Car le christianisme, je le redis, est une religion du salut, et salut, ça a un sens précis, ça veut dire une espérance après la mort. Et par conséquent, si le christianisme est une religion de salut, eh bien, elle doit nécessairement passer par la prière, par la transcendance.
Par la transcendance. Mais on pourrait vous demander justement quand même, est-ce que le rôle que l'Église, le rôle de civilisation, par le service des autres, grâce à toutes sortes d'institutions caritatives, d'enseignement, etc., le service de la beauté, par l'art, sous toutes ses formes, est-ce que cela va être encore possible demain aux chrétiens ? Ou est-ce que les chrétiens ne devront pas trouver une autre forme de présence ?
Oui, et de toute façon, les chrétiens n'ont plus les moyens financiers actuellement d'édifier des œuvres d'art, telles que la cathédrale de Chartres ou nous Saint-Pierre de Rome. Par conséquent, l'expression chrétienne va forcément, d'un point de vue concret, se minoriser. Ça me paraît inévitable, les églises sont et seront plus petites, etc. N'est-ce pas ? Toutefois, on peut concevoir que, quand la crise sera dépassée, il y aura à nouveau une floraison artistique. Car, à cet égard, deux éléments, à mon avis, entrent en ligne de compte. Un élément puissance, un élément argent. Et Effectivement, je le disais tout à l'heure, cet élément est beaucoup moins important maintenant qu'autrefois pour les chrétiens. Ils sont beaucoup moins riches et l'Église est beaucoup moins riche. Mais il y a aussi un élément tout différent qui est un élément de dynamisme, qui est, ou si vous voulez, l'évacuation du doute. Actuellement, les chrétiens sont encore dans le doute. Enfin, ils sont incertains sur leur avenir. Quand ils se seront vraiment acceptés comme minorité, mais quand ils auront réaffirmé leur croyance, il n'y a aucune raison pour que cette confiance à nouveau retrouvée dans l'avenir ne s'exprime pas dans l'art et la littérature.
Bon, dynamisme, mais un dynamisme, dynamisme des chrétiens, mais dynamisme aussi qui, finalement, va rencontrer un monde qui risque d'être hostile, n'est-ce pas ? Cette affirmation du salut au-delà de la mort, du salut en Jésus-Christ au-delà de la mort, peut rencontrer quand même une hostilité assez vive.
C'est sûr, c'est sûr. Le christianisme s'est présenté dès l'origine comme un scandale et il continuera de l'être.
Il doit l'être.
Ah, il doit l'être, c'est sa vocation.
Et c'est pourquoi vous appelez les chrétiens actuellement au courage et à la lucidité.
À la lucidité et au courage, car des chrétiens sont persécutés. Et j'ai même dit, et je le crois très profondément, que le plus grand siècle des persécutions chrétiennes ne se situe pas à l'époque de l'Empire romain, mais au XXe siècle. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de chrétiens morts ou en prison pour leur foi que de nos jours.
Le christianisme est une voie difficile.
Ah, de plus en plus. Il ne faut pas se faire d'illusions.
Est-ce qu'il ne faut pas être un peu fou pour être chrétien ?
Le christianisme est une folie, c'est saint Paul qui l'a dit.
Comment vivre cette folie ? Comment la choisir ? Comment opter pour elle ? En toute lucidité, justement.
En toute lucidité, parce que c'est le seul moyen, je dirais même, non seulement de salut dans l'au-delà, mais de salut sur terre. Et à cet égard, j'ai souvent eu l'occasion, devant mes étudiants même, et pour le XVIe siècle, d'opposer Machiavel à Erasme. Machiavel a théorisé la pratique courante, c'est-à-dire qu'on fait la guerre à son voisin et qu'on essaie de lui nuire le plus possible. Bon, qu'est-ce qui a découlé d'une telle attitude, d'une telle conduite ? Eh bien, ça a été la mort des autres. Ça a été des conflits sanglants tout au long de l'histoire. En revanche, Erasme et d'autres, Thomas More, dans l'Utopie, appelaient les hommes à la paix universelle. Bien. Évidemment, jusqu'à présent, ça a été une utopie. N'empêche que c'était le seul vrai moyen de ne pas gaspiller les énergies humaines et de ne pas tuer son semblable. Alors, pour ma part, je parie délibérément pour l'utopie comme étant la seule solution raisonnable.
Jean Delumeau, je vous remercie.